Bonjour et bienvenue, chers amis, sur le podcast de la rédaction, l'émission d'actualité vidéoludique, n'est-ce pas ? L'épisode numéro 540. Ça commence à faire beaucoup.
Ouais, j'ai loupé les 10 derniers, moi.
T'en as loupé 520, je pense.
Ok.
À peu près. Avec nous aujourd'hui pour ce podcast de la rédaction, Plume.
Ouais.
Voilà.
C'est tout.
Salut. Merci.
Ça s'arrête là.
Thomas.
C'est vrai ? Ah, ok. Voilà. Bah, salut.
Et un certain Romain.
Un certain Romain, bonjour.
Exactement. Et bien sûr, Poufy à la technique.
Je pensais que tu allais parler
de toi. Vous envoyez plein de vidéos cheloues et bizarres pendant ce podcast.
Qui n'ont rien à voir avec les thèmes abordés.
Exactement. Bah oui, c'est le nouveau ton de la télévision, tu te rappelles
et
plus.
Et qui tombe même sous le coup de la loi.
Exactement. Ouais. Ouais, ça, c'est pas très grave.
Et on sait comment on surnomme Poufy.
Exactement,
ouais.
Et exactement. Mais ça sera pour un autre podcast spécial.
Le dernier.
Chelou.
Spécial exactement. Prison.
Alors, bien sûr, on aura différents thèmes durant ce podcast que nous aborderons. Après les wins et les fails habituels, bien sûr, mais tout de suite, le win et les fails. Et on commence par le win avec Thomas.
Eh ouais, bah, j'ai gagné.
Plutôt voilà. Une bonne nouvelle, plutôt un truc vachement sympathique.
Oui, on en a la tête comme ça. Parlé dans la quotidienne de Gameblog lundi. C'était évidemment l'événement du week-end, le The Event qui s'est tenu à Montpellier, en grande partie, sauf pour les 2-3 qui étaient covidés chez eux, enfin, cas contact,
qui étaient punis,
évidemment, qui étaient assignés à résidence. Et bah, c'est un nouveau record après les 3,5 millions pour l'Institut Pasteur l'année dernière. Cette fois-ci, c'est 5,7 millions qui ont été récoltés au profit, cette fois, d'Amnesty International, une association bien dans l'air du temps, puisqu'elle lutte pour la liberté d'expression et la défense des droits de l'homme. Donc, bah, vous l'avez sans doute suivi, puisque ça a quand même fait un petit peu parler de lui hein, ce week-end, le The Event sur le net. Pendant une bonne cinquantaine d'heures, on avait une grosse quarantaine de streamers qui ont fait à peu près tout et n'importe quoi, mais qui ont aussi joué. On a eu plein d'événements random, le mariage de Jill et Magla, la calvitie de Jiraya, enfin voilà, plein de trucs a priori passionnants, mais en tout cas, le résultat est là, puisque c'est un nouveau record, 5,7 millions, si ça grimpe comme ça tous les ans, ça
près
inaugure
de l'année dernière, quasiment.
Beaucoup, beaucoup de belles choses pour l'année prochaine.
Bah, à l'échelle mondiale, c'est énorme,
ouais, ouais.
Parce que même les AGDQ, je crois pas qu'ils dépassent les 5 millions comme ça.
Je pense pas.
Je crois que Marc Hamill a relayé le truc à un moment quand il a été interpellé sur Twitter.
Absolument.
Etc. Moi, j'ai pas le chiffre, mais le Téléthon, il en est où maintenant en France ? Chaque année, ça donne combien ?
Alors,
dans les
question.
30 millions, quelque chose comme ça.
Ah, ils sont encore loin de la Téléthon, mais c'est pas mal à l'échelle du web, des streamers, etc.
C'est absolument monstrueux.
Parce que Téléthon, c'est 24h sur 24.
Bah, c'est 24h de vie. Le Téléthon dure moins longtemps pour le coup.
Et c'est la télé.
Mais profite d'un passif.
L'exposition télévisuelle.
Ça fait des années, pour parler des dizaines d'années que ça existe. Mais là, pour le coup, je veux dire, c'est.
Oui, c'est pas le même public et tout ça, de toute façon.
Ça fait pas si longtemps que ça que le The Event existe, mais on voit qu'il y a une progression assez bluffante à chaque édition. Et du coup, on peut se demander jusqu'où ça va aller. On finit juste
Sky is the limit.
Quelques chiffres.
Puisqu'il y a
eu un. Touche pas à mon micro, toi.
Eh oh.
Mais pas tes micros.
T'as qu'à parler devant.
Mets pas tes micros dans le micro.
Quelques chiffres qui ont été détaillés par l'organisateur, un Zerator, après coup. On avait une moyenne en fait de 105 000 euros de dons par heure, ce qui est quand même pas mal du tout.
C'est énorme.
Une moyenne de 10,23 € par don. Donc vraiment en moyenne, il y a eu énormément, je crois, 180 000 dons qui étaient en dessous des 5 euros. Mais voilà tout ça, mis bout à bout.
Des dons mignons, bien sûr.
En plus, 2 millions qui ont été récoltés par la vente de t-shirts et cette année, évidemment, de masques siglés The Event.
T'en as acheté ou pas ?
Non. Moi, je donne à côté.
D'accord.
Vous m'avez vu sortir ma carte la dernière fois, d'ailleurs. Enfin, non, c'était Plume qui était là, qui a noté mon code.
Exactement, c'est ce que j'allais te dire.
Et depuis, je suis poursuivi. Bref, voilà, c'était évidemment une belle opération.
Belle
donc, 5,7
millions
qui seront reversés à Amnesty International. Et puis, du coup, on attend l'édition 2021.
Et tu sais, cet event-là, moi, me fait me sentir vieux. Vraiment.
Mais tu l'as.
C'est fini.
Non, mais c'est ça, parce que tu sais, quand t'es gamin, tu parles de trucs à tes parents et tu vois qu'ils sont complètement largués, ils connaissent pas les gens dont tu parles.
Et là, ta fille t'a parlé de The Event.
Non, elle m'a parlé de la Reine des Neiges. Mais
elle n'a pas pris sa carte.
On en est loin, mais je m'y approche parce que je vois pendant tout le week-end des gens s'enthousiasmer en parlant de personnes dont j'ai jamais entendu parler. Je crois que tous les gens impliqués de près ou loin dans The Event, j'en connais pas un seul. Quoi. Je pourrais même pas les désigner en disant lui, c'est lui.
Si, au moins Zerator, que tu connais forcément.
Zerator, je connais le nom parce que c'est lui qui crée l'event, mais tu me le montres là, tu me mets 4 photos côte à côte, je serais incapable de dire qui est Zerator.
Bah, une chance sur 4. Bon,
après, en même temps, ça doit être réciproque, ils doivent pas savoir non plus qui on est, donc c'est parfait finalement.
Non, mais c'est pour ça que je dis que je me sens vieux parce que ces gens qui sont devenus des stars à part entière dans les médias francophones, bah moi j'en connais pas.
Bah, c'est ouais. normal, hein, c'est une
mais il y avait Samuel Etienne quand même dans le tas. Hein.
Exact.
Mine de rien, Samuel Etienne.
Ah oui, c'est vrai.
Journaliste et présentateur de questions pour un champion.
Il y a Macron, la matinale de France Info surtout.
Il y a Macron qui a fait un tweet et tout ça.
France Info TV.
Bon, allez, fermez vos gueules maintenant. Ok, d'accord, c'est la suite.
Ok.
Tu tweets le fail avec plus.
Tu m'as dit de fermer ma gueule. Moi,
c'est
je
fail vais justement. Ça tombe okay. bien.
Alors, le fail de la semaine, bah, pendant qu'il y en a qui récoltent de l'argent pour les autres, il y en a qui essayent de s'enrichir.
Exact.
De façon un petit peu intrusive. Et c'est le cas de 2K Games qui, il y a quelques jours, sans prévenir, eh bien, ils se sont dit on va intégrer des publicités dans NBA 2K21.
Mais ils ont raison. Hein.
Comme ils l'ont fait l'année dernière. Et, sauf que l'année dernière, ça s'était vu et que ça a été vite retoqué. Eh bien, cette fois, ils l'ont refait. Et le problème avec les publicités qui ont été donc, on va dire, vues par le site Steve Ivor, le site australien Steve Ivor, qui les a ensuite postées sur son site. Et ben, ce qui se passe avec ces pubs, c'est qu'elles durent vachement longtemps et qu'elles sont impossibles à zapper. Donc, il y a une pub pour l'Oculus Quest 2, par exemple, qu'on retrouve en pré-match, qui vient s'imposer à vous. Et vous ne pouvez absolument pas la zapper. Elle dure un peu plus d'une quinzaine de secondes.
Bah, c'est quand même
ce qui est quand même énorme. Donc, sur console, ça équivaut à peu près au temps de chargement du jeu. Mais si vous avez un PC avec un bon SSD, bah, ça fait que la pub dure beaucoup plus longtemps qu'un chargement. Et ce qui est assez
sympa.
On va dire antipathique par rapport aux joueurs qui, eux, n'ont pas spécialement envie de patienter davantage et encore moins avec une publicité devant la gueule. Donc, c'est un gros problème, les joueurs commencent bien à hurler. On se rappelle que EA a essayé de faire la même chose, enfin plus ou moins la même chose cet été avec UFC 4, sauf que eux c'était simplement d'ajouter des pubs pendant les replays et d'autres moments, mais sans imposer quoi que ce soit. C'est-à-dire on pouvait parfaitement zapper les choses, etc. C'était vraiment des panneaux, quoi. C'est comme vous êtes
c'était des transitions comme à la télé, ouais, en voilà. fait. C'est ça, genre t'avais le score en cours de combat avec un petit panneau d'une série Amazon qui apparaissait au-dessus. Donc pour le coup, c'est vrai que ça ressemblait pas mal à une retransmission télé. Mais bon, c'était malgré tout ajouté a posteriori.
Oui, c'est comme si t'étais sur l'autoroute, tu vois des pubs. Enfin, je veux dire, c'est pas censé te déranger, c'est à peu près la même chose, quoi.
Tu regardes la route normalement. Hein, sur
bon, tu regardes les pubs aussi. Hein,
bah, si tu regardes une retransmission sportive à la télé, que ce soit un match de foot, un match de basket, etc., les pubs sont omniprésentes.
À la différence que là, t'as payé ton jeu a priori plein pot. Donc, t'es déjà passé à la caisse.
Non, mais c'est pour faire plus réaliste,
c'est ce que j'allais dire. Tu vois, dans des NBA 2K, des pubs, c'est pas nouveau. Genre, si c'est le panneau sur le bord du terrain, oui, etc., évidemment. Ça a aucun problème, parce que là encore, ça contribue un peu à l'authenticité.
Et ça se fait dans tous les jeux de sport depuis des années.
Mais là où on passe dans une autre étape, et c'est 2K qui est jamais en retard à ce niveau-là, c'est qu'on rentre dans des mécaniques d'un jeu free-to-play appliqué sur un jeu
exactement.
Payant. Et déjà, on sait que dans le mode ma carrière, etc., il y avait plein déjà de mécaniques qui t'incitait à payer toujours plus. Et là maintenant, parce que dans un free-to-play, tu payes pas ton jeu, qu'il arrive à se rémunérer via de la publicité, un panneau de 30 secondes que tu vois un moment, tu peux le comprendre, t'as rien payé. Mais là, c'est quand même un jeu qui est vendu assez cher et qui le sera encore plus d'ailleurs sur console next-gen. Là, c'est.
Oh bah rien
c'est
que l'édition Mamba Forever, hein, c'est 100 balles. Donc, tu payes 100 balles et en plus, tu te tapes des pubs, comme disait Plume, avec des chargements qui sont finalement aussi longs que le spot en question.
Ce qui va être complètement fou sur PS5 et Xbox Series X. Où
on nous vend les temps de chargement rapides comme l'éclair.
Ah oui, non, mais c'est bien joué de la part de 2K, mais visiblement, ça va pas passer comme
bon,
ça.
C'est perfide et bien sale.
C'est.
Perfide et albi.
Simplement. Ok, y a des problèmes avec les microtransactions, les lootbox, etc. Il faut essayer de trouver un moyen de se faire encore plus de thunes. Mais là, dégrader comme ça l'interface, le confort de l'utilisateur par rapport au jeu, excusez-moi, mais c'est carton rouge.
C'est pour ça que c'est un fail.
Ils réessayent à chaque fois, tu sais, d'année en année.
Bien sûr,
l'année dernière,
de voir jusqu'où ils peuvent aller, c'est tout.
Le côté obscur, les gens vont savoir à l'usure. Hein. Ouais.
Exactement. Et puis un jour, les joueurs vont dire bon, c'est pas grave, allez. J'attends et puis.
Oh là, je crois que non, là pour ça.
Bah écoute, on verra.
Vu qu'il y a zéro concurrence pour NBA 2K forcément les fans de basket vont se diriger vers ça et que les fans de basket ils sont pas 10, ils sont plusieurs millions dans le monde, à mon avis. Au bout d'un moment, ça va péter, comme on dit.
Bah écoute, on suivra l'affaire avec assiduité
et préciosité.
Et préciosité intense, voilà. Merci pour ce fail, Plume.
Bah de rien, moi j'y suis pour rien.
Et si tout de suite nous passions au thème de la rédaction. Et Et le premier thème, c'est non plus la Xbox Series X et la Xbox Series tout court, mais la PS5.
Ah oui, parce qu'on l'a pas.
Parce que à un mois de sa sortie, on l'a toujours pas.
Non seulement on l'a pas, mais on l'a même pas essayé.
On n'y a pas joué.
C'est même pas eu l'opportunité.
Mais c'est comme tout le monde. Attention, hein, on n'est pas en train de dire que.
Sauf Jeff Keighley, sauf les Eurogamers.
Oui, oui, il y a quelques privilégiés, mais bon, ils sont pas non plus 150 millions, quoi. Faut arrêter de déconner, les mecs. Mais la PS5, oui, peut-être qu'on l'aura bientôt avant la sortie, je ne sais pas. On verra.
Ah bon, on l'aura sûrement le 12, ouais, en allant faire la queue à la Fnac, je pense. Il y a des chances, et encore.
Le 12, c'est aux États-Unis.
Oui, ah oui, c'est vrai.
19, c'est 19 chez nous.
Ah oui, bah, on t'enverra aux États-Unis pour faire la queue.
Ah bah ça tombe bien, plus comme j'adore l'avion, c'est parfait.
Ouais, on fera ça.
On t'enverra en bateau.
Bah parfait, tiens, j'irai avec Greta Thunberg sur son voilier.
Bloqué sur Ellis Island.
On va partir, attends, on part aujourd'hui, je pense, c'est mieux.
Bah oui, pars tout de suite. Après le podcast, tu t'en vas.
Ouais.
À coup de pied au cul. Donc du coup il y a pas mal de choses qui ont été dévoilées sur la PS5 parce qu'effectivement Sony aime bien sortir des trucs au compte-gouttes hein, depuis cet été.
Et ce qui était fort c'est qu'ils ont balancé le truc pile à l'heure d'embargo de
la série X.
Des articles sur la série X.
Évidemment.
Donc c'était complètement fait exprès.
C'était fait forcément exprès. Bah écoute toi tu peux en parler parce que t'as vu pas mal de choses, t'as fait pas mal de news dessus. Et notamment de l'interface.
Bah, ce qui assez...
C'est de ça dont il s'agit, ouais, justement.
C'est l'interface qui a été montrée.
Ce qui est assez amusant, c'est que là où on voit que Microsoft, avec la Xbox, ils ont voulu faire un truc vraiment dans la continuité de la Xbox One, en améliorant le confort, la rapidité et la stabilité, etc., de l'ensemble, les changements plus importants, on va dire, ils sont du côté, en termes de représentation, etc., ils sont plus du côté de chez Sony, avec pas mal de nouvelles fonctionnalités, d'immédiateté qui est recherchée là aussi dans l'interface de la PS5. Moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est, outre l'apparence de l'interface, c'est vraiment les nouvelles choses qu'on peut faire sur la PS5. Je ne sais pas ce que vous avez retenu.
La navigation par carte pour les différents jeux et cette histoire que Digital Foundry a été un peu déterrée d'avoir des vidéos qui peuvent se lancer et des vidéos d'aide notamment qui peuvent se lancer.
Ça, ils avaient prévu à l'époque, effectivement.
Et le côté vraiment immédiat de la chose où ça devrait prendre à peu près 8 secondes pour passer d'une application à une autre, ce qui est quand même pas grand chose. Alors après, sur Xbox Series X, toi, tu peux nous en parler plus facilement
du Quick Resume.
Je sais pas quels sont les délais exacts.
Mais... Ça dépend des jeux en fait. Il n'y a pas un chiffre donné pour passer d'un jeu à l'autre. Mais je pense que c'est pareil, ça doit être une dizaine de secondes en moyenne pour passer d'un jeu à l'autre. J'imagine... et retourner en partie.
Une dizaine de secondes, t'as pas le temps de te faire un café. Hein. T'as pas le temps de. Non mais tu vois, enfin je veux dire par rapport à tout ce qu'on connaît avec cette génération aujourd'hui. Je parle pas du PC évidemment parce que sur PC tu peux, si t'as une fusée c'est bon. Les jeux se lancent immédiatement.
Là, c'est une fusée.
Mais par rapport à cette génération, le bon, il a l'air franchement phénoménal.
J'imagine que ça va être pareil sur PS5, mais ce que je disais sur Xbox, c'est que les temps de chargement sur les jeux qui n'étaient pas forcément longs sur la génération actuelle, après avoir essayé la nouvelle génération, ça te semble interminable. Et c'est tant mieux. Alors après, évidemment, on a Touquet qui nous rajoute des publicités pour.
Mais oui, c'est pas grave.
Mais il va dire que c'est pour occuper, justement.
Ouais, pour te permettre d'aller faire ton café, justement. C'est ça, ouais,
café.
C'est ça le truc. Mais il y a un truc aussi que j'ai noté, et je trouve ça un peu, je trouve ça un peu fourbe, c'est les astuces. Genre on te propose d'accéder à des astuces.
Si t'es PlayStation Plus,
mais
d'ailleurs.
Si t'es PlayStation Plus uniquement.
Bah, ils ont raison.
Ça c'est quand même un peu.
C'est un avantage en plus quand t'es abonné, quoi.
C'est un des trucs poussent au crime.
C'est pas payant forcément, oui.
J'allais dire, ça fait un peu penser. L'ensemble fait un peu penser à toutes les promesses de Google Stadia au début, à savoir, tu vois un truc, tu peux y aller tout de suite. Tu vois, quand tu vois la vidéo sur YouTube, tu peux direct aller sur Stadia et jouer au jeu.
Oui, Jumping est arrivé au moment.
Exactement.
D'ailleurs, où
j'ai l'impression que, peut-être pas s'inspirer, mais Sony a cette philosophie-là qui est vraiment inscrite pour la PS5, c'est essayer de. D'avoir
de perdre le moins de temps possible.
Exactement,
en fait.
Tu perds pas de temps, t'as pas de.
Tu
vas beaucoup d'immédiateté.
Tu vas droit au but.
C'est du jeu à la carte aussi, tu peux aller dans des parties spécifiques et l'interface te dit, voilà, pour cette partie du jeu, en moyenne, ça va vous demander tant de temps pour réussir à la compléter. Et c'est là où tu vois que notre temps d'attention, il ne fait que diminuer au fil du temps. Oui. Là, tu vois que tout est fait pour les gens qui n'ont plus de patience en fait et qui veulent tout de suite par petits morceaux,
malgré tout te garder justement sur la console en question. Enfin, tu parlais justement de cette durée évoquée pour compléter tel ou tel trophée où il vous reste tant d'items à récupérer ou vous y arrivez dans quelques minutes. t'as non seulement ça, mais t'as en plus des trophées qui maintenant vont plus rapidement et plus souvent te permettre de débloquer des récompenses, des avatars, des bannières, des choses comme ça. Donc t'as vraiment tout un tas de trucs. Et regarde, t'es pas très loin, reste encore un peu, et puis après t'as... Ah, et puis t'es bloqué là-dessus, c'est pas grave, regarde, hop, tu zappes cette partie, tu continues à tel endroit où tu vas rejoindre tes potes.
Ça fait vraiment une expérience à la Twitch où, où tu récupères des trucs, ça va vite, tu
mais toujours
t'apprécies
quelque chose.
Tout.
Et comme dit Romain, ça témoigne du fait qu'on a tellement d'interactions, de choses qui accaparent notre attention aujourd'hui, que tu as l'impression qu'ils sont obligés d'y aller au bulldozer pour te faire rester quelques minutes de plus.
Ah bah, il faut que ce soit que du bonus.
Et ils gamifient l'expérience.
C'est, ce que je veux dire, c'est la gamification totale, là, du coup.
Mais, et autre chose, mais ça, on n'a pas trop pu le voir via l'interface, mais on le savait via des brevets, et là, ça semble se confirmer, sont les installations partielles, en fait. Si, si par exemple, toi, le multi, c'est la seule chose qui t'intéresse dans un jeu, eh bien, pour conserver de l'espace libre, tu pourras te concentrer uniquement, enfin installer uniquement le multi ou l'inverse pour le solo, etc. Et sur Xbox, moi, je n'ai pas encore pu l'essayer, mais je l'ai vu dans le menu clairement que pareil, tu pourras installer ou désinstaller certaines parties spécifiques du jeu tout en pouvant continuer de l'utiliser à côté. Ça, c'est assez nouveau aussi. Et c'est là où on voit que l'espace de stockage, ça va vraiment être un souci sur cette génération. Et surtout particulièrement pour les gens qui ne pourront pas forcément financièrement se payer une carte mémoire qui est assez chère ou un SSD externe, etc. Là, on voit que la PS5, elle est vendue comme ayant un disque dur de 825 gigaoctets. Ouais. Et alors qu'en fait, une fois l'interface prise en compte, enfin le système d'exploitation, tout ça,
il y a quasiment 200 gigas de système d'exploitation.
Voilà, 664 gigaoctets disponibles.
Avant mise à jour. Parce que ça va nous faire que grimper dans les années à venir.
Attention au day one de la
après,
mise à jour.
Ça s'optimise aussi ces choses-là. Hein, tu sais,
oui, mais en rajoutant des fonctionnalités, on sait que l'interface qu'on a découvert là aujourd'hui pendant une dizaine de minutes, elle va de toute façon évoluer, elle va se complexifier au fur et à mesure. Il y a plein de choses, à commencer j'imagine par des bandeaux publicitaires qui vont se rajouter, et ça va finir par prendre un peu plus d'espace in fine, et donc on aura de moins en moins de stockage sur le disque dur, même SSD, pour profiter des jeux. Après, j'espère que les éditeurs vont jouer le jeu de ce que tu mentionnais. L'installation
après,
différenciée.
Après, tes jeux, en général, toi, ils font 100 mégas maxi, ça devrait bien se passer, je pense.
T'es mauvaise langue.
Bah non, c'est la vérité. C'est
non, il y a des jeux en deux qui sont bien plus ambitieux que ça.
Ah bon
ouais.
C'est vrai. 102.
je parle de ceux auxquels tu joues, toi. Hein, moi, je parle pas des jeux tout court.
Mais ceci dit, maintenant, t'étais dans le cloud, on s'en fout.
C'est vrai.
Vous jouez, vous
en toi, t'es pas dans le cloud.
Et vous remettez.
Un truc qui a été clarifié un petit peu aussi, c'est la rétrocompatibilité.
C'est vrai.
Parce que même si on le sait que dans l'utilisation quotidienne et normale, la rétrocompatibilité, c'est pas vraiment le truc qui sert le plus, mais malgré tout, c'est devenu un peu un argument de vente et un point de communication important pour les deux camps.
Bah, il s'est vendu pas mal de PS4 et pas mal de jeux finalement. Donc,
Oui, et comme il n'y en aura pas forcément des 1000 et des 100 au lancement, c'est bien. Surtout que pas mal de jeux PS4 comme Xbox vont recevoir des mises à jour next-gen, entre guillemets. Donc c'est aussi un bon moyen. Et donc on sait que officiellement, sur le catalogue global de la PS4, seulement 10 jeux étaient marqués comme pas compatibles. Sauf qu'il y en a deux, des développeurs de deux d'entre eux qui sont revenus dessus et qui ont dit non, nous on est en train de bosser pour les rendre rétrocompatibles. Donc si les choses restent... Si les choses restent au point où elles en sont actuellement, ça voudrait dire qu'il y a 8 jeux PS4 qui ne fonctionnent pas du tout sur PS5. Il y a le développeur d'un de ces 8 jeux qui a dit non, nous, ça restera comme ça parce qu'on ne sait pas pourquoi le jeu ne se lance pas. Ça ne fonctionne pas.
Ils n'ont pas voulu creuser plus.
Et comme c'est un vieux jeu, certainement, auquel personne ne joue, et que ce jeu-là tournait avec une version de leur moteur ancienne, à laquelle ils n'ont plus accès aujourd'hui. Ils se sont dit, on ne va pas,
ils vont pas faire un moteur
opération trop compliquée.
Une version PS4, oui. Donc ils ont dit, non, ça ne fonctionnera pas. Je trouve qu'il y a quand même un petit bémol à mettre là-dessus, c'est qu'ils nous disent, ouais, il y a ces jeux-là qui ne fonctionnent pas du tout, mais pour ceux qui fonctionnent, il y a quand même potentiellement des petites incompatibilités de certains modes de jeu, des petits trucs qui ne fonctionneront pas très bien, etc. Donc ça reste assez flou pour l'instant, parce qu'on se souvient quand la PS3 est sortie chez nous, je parle en Europe et aux États-Unis, les premiers modèles 60 gigaoctets était marqué comme rétrocompatible avec les jeux PS2. Mais contrairement au Japon où c'était de la rétrocompatibilité hardware et donc il y avait une compatibilité totale, c'était software chez nous. Et donc certains jeux qui étaient marqués comme rétrocompatibles avaient de gros problèmes de gros problèmes de fonctionnement. Je sais plus quel jeu c'était, mais il y en a un par exemple qui était marqué compatible, mais le héros n'apparaissait pas à l'écran en fait. Il y avait juste ses armes, mais lui n'apparaissait pas. Donc oui, c'est compatible, tu peux y jouer, mais visuellement c'était quand même
c'est pas
problématique. Je sais plus. Genre, mais en tout cas,
faut s'attendre à des surprises.
Voilà,
quand
il y aura potentiellement des surprises sur certains jeux. Mais malgré tout,
en tant que catalogue, il est tellement gros que bon,
grosse compatibilité.
Bah oui, mais
il y a quelques petits trucs.
En attendant, justement, c'est presque ce qu'on n'a pas vu en fait. Des jeux vraiment du gameplay, ça a été extrêmement limité. Et moi, ce qui me désole un peu, mais alors c'est pas forcément de la faute de Sony, mais plus de la situation qu'on est en train de traverser. Je pense qu'au cours d'une année normale, on l'aurait tous eu en main, déjà tous essayé la DualSense, on aurait pu
parler des
sensations, du rendu, etc. Et là, en fait, faute de laisser les gens l'essayer, j'ai l'impression que toute la com, elle est focalisée sur des gimmicks, au point où on en arrive à faire une info du jingle d'intro. C'est devenu une information. Regarde, écoutez, c'est le jingle d'intro de la PS5. En soi, c'est une non-information, c'est vraiment le truc, mais... Normalement,
c'est le dernier truc qui doit arriver.
On devrait s'en foutre d'une force, mais vraiment stratosphérique.
Ça démontre une identité.
Mais comme il y a
tous les détails, il y a les jaquettes.
On s'attarde justement sur des micro détails.
On saute sur le moindre petit truc.
Ça me désole un peu parce que je trouve que l'industrie s'honore pas des masses à juste mettre en lumière ce genre de truc parce que il y a rien en fait. C'est pas vraiment du contenu. C'est des choses sur lesquelles normalement. Enfin, dans une année plus classique, on serait passé complètement par-dessus ce genre de truc pour s'attarder véritablement sur les jeux.
Pas sûr.
Et là, les jeux.
Je suis pas sûr. Parce qu'avec PlayStation, de toute manière, regarde.
Quand on en aurait quand même parlé de toute façon.
Ils montrent le logo PlayStation.
Mais...
PlayStation 5.
Mais ça, c'est pareil.
Pendant une conf, à la fin d'une. Je sais plus quelle conf.
C'est
au CES.
Voilà. Ils font que montrer ça. Bah ça a fait un buzz, comme on dit.
Parce que ça a officialisé vraiment la PlayStation 5.
Ça l'aurait fait de toute manière. Parce que quand c'est Sony, bizarrement, tu peux même montrer, un bout de la console en photo, en disant, regardez, c'est le coin droit, haut, droit, machin de la console.
Oui, ça marche.
Ça marche. Tu peux rien faire contre ça, malheureusement.
Si je m'en désole.
Ça intéresse des gens, je suis désolé. J'aimerais bien que ce soit pas le cas. J'aimerais bien qu'on arrête avec ça. Je préférais qu'on me file les jeux et la DualSense et qu'on me dise allez, débrouillez-vous plutôt que des miettes d'informations.
C'est la faute des médias, tout ça.
Exactement.
Ce que j'ai remarqué, aussi, et là ça vaut aussi bien pour Xbox que pour PlayStation, c'est que je trouve, alors c'est peut-être lié aussi à la situation mondiale actuelle, mais je trouve qu'on nous vend beaucoup cette nouvelle génération sur le confort d'utilisation. Et pas sur les jeux. Sachant que les catalogues de lancement des jeux, il n'y a pas de vraie grosse exclusivité dans un camp comme de l'autre. On va dire ce qui peut être considéré comme un gros jeu, c'est cross-gen. Par exemple, Spider-Man Miles Morales, qui est un vrai argument de vente, vu les ventes de Spider-Man sur PS4, qui est un vrai argument de vente, il sort aussi sur PS4. Donc, mine de rien, ça enlève un petit truc.
La dimension exclusive.
Voilà, et vraiment nouveau jeu next-gen, même si je pense que techniquement, entre les deux versions, il y aura un gap qui est vraiment important. Mais tu vois, sur Xbox, on nous vend le Quick Resume, on nous vend la rétrocompatibilité sur 3 générations, on nous vend la rapidité des temps de chargement. Et pareil, sur PS4, on nous vend les temps de chargement, on nous vend l'interface qui permet d'incruster une vidéo d'aide en coin d'écran. On nous vend pas forcément du gadget, mais des trucs qui améliorent la qualité de vie sur console et pas forcément des jeux en eux-mêmes. Je pense que Halo Infinite était sorti dans de bonnes conditions. Après, ça reste un jeu cross-gen aussi, tu vois. Mais il n'y a pas vraiment cette locomotive en termes de jeu qui te dit il faut que j'ai cette console pour jouer à ça. Là, c'est. Tu vas avoir cette nouvelle console, elle va te permettre de jouer en grande partie à ce que tu as déjà ou à des jeux qui sont aussi disponibles sur ce que tu as déjà, mais de manière quand même plus confortable. Et d'une certaine manière, ça marche, parce que pour être passé pas mal de la Series X à la One S, j'ai vu que je veux plus utiliser la One S.
Tu t'es embourgeoisé.
Parce que c'est tellement plus confortable, tellement plus rapide, tellement plus stable, etc. Et j'imagine, que, sur, j'imagine que sur PS5, par rapport à la PS4, ça va être pareil. Et même en termes de bruit. Parce qu'on nous dit que la PS5 sera quand même vachement.
Oui, alors attends, j'attends de voir. Hein, parce qu'ils ont parlé du ventilo, soi-disant qu'il serait amélioré au fil du temps. Et alors il faut qu'on m'explique, je ne vois pas comment.
Mais... Il pourrait être mis à jour. Hein, c'est assez flou. Mais
c'est
en
des
tout
objets
cas, on nous vend vraiment cette qualité de vie accrue, etc. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il y a plein
de... Bah, ça évite de parler du manque d'exclusivité pure et simple.
Du manque d'exclusivité et du fait aussi que, au moins jusqu'à preuve du contraire, bah, le gap technique, il ne sera pas aussi important, aussi important que ça. Parce que les,
ce qui est logique maintenant. Hein,
la technologie, avance, voilà, la technologie avance plus aussi vite que nos attentes. En fait.
Oui, c'est
parce
ça.
Nous, on a connu des... Comme on joue depuis longtemps... On a connu des gaps techniques saisissants avec des changements d'expérience.
Tout ce qui est genre 3D déjà, c'était la révolution.
Oui, mais qui nécessitait pas à l'époque d'être équipé en mode high-tech. Là où aujourd'hui, si on veut franchir encore des gaps, il faudrait que tout le monde soit équipé d'écran 4K, d'écran 8K à la Poufy. Et ça, on sait que c'est un truc qui prend énormément de temps. Là où avant, sur la même télé,
de l'argent,
passage des consoles 8 bits à 16 bits, il y avait un gap. Et jusqu'au 32, évidemment, c'était énorme. Mais tout ça avec le même équipement finalement.
Bah, parce qu'on nous vend le 120 Hz. Sur Xbox Series X, bah moi personnellement j'ai pas pu l'essayer parce que je suis pas équipé tout simplement.
Évidemment. Et
déjà acheter une console qui vaut 500€ plus ensuite te racheter une télé,
ça fait beaucoup.
Ouais. Ça fait beaucoup. Donc les promesses sont là, mais pas vraiment en termes de jeu pour l'instant en tout cas.
Mais c'est pas un peu souvent le cas dès qu'il y a une nouvelle machine, on a jamais des trucs extraordinaires au lancement quoi. Enfin, c'est rare ici.
Oui, mais on mettait pas l'accent sur les fonctionnalités.
À part la PlayStation 1 au début, il y avait trois jeux.
Toi, t'as fait plein de lancements de consoles. C'était les jeux qui primaient.
Oui, je sais, c'était les jeux. Mais
il y avait pas d'OS dans les consoles de toute façon avant, donc c'était le.
C'était des jeux qui arrivaient 6 mois, 1 an après quoi, qui étaient vraiment, qui commençaient à être bien quoi. Mais au lancement, c'est rarissime qu'il y ait des jeux.
Les consoles Nintendo quand même.
Ouais.
Enfin. Super Mario World, F-Zero, Super Mario 64.
C'est pas une surprise.
Je veux dire, depuis 64. Non, même sur GameCube aussi.
Luigi's Mansion sur GameCube.
Sur la GameCube, il y avait trois jeux qui étaient sympas, mais c'est bon, t'avais fait assez vite le tour et t'attendais vraiment les gros trucs après quoi.
Mais sur Nintendo, ça a toujours été un cas à part parce qu'ils se reposent vraiment sur des grosses licences, etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'on en parlait la semaine dernière. Enfin, si tu penses au catalogue de lancement de la PS4 et de la Xbox One, il y a rien de vraiment sexy à mort, truc comme ça.
Clairement. Enfin, 3 ans pour avoir des putains
de jeux. Oui, mais la différence, c'est qu'au moment du lancement de la PS4 et de la Xbox One, on nous vend pas de l'interface. On ne vend pas du confort d'utilisation on nous le fait cette fois-là.
Mais oui, alors pourquoi après... Parce qu'il n'y a peut-être pas aussi ce qu'il faut en termes de jeu.
Xbox, ils ont un peu essayé de nous vendre Kinect, machin. Mais c'est encore un cas à part. Parce que
le truc qui était indispensable pour faire fonctionner la console, c'est ça.
Là, le confort d'utilisation qu'on nous vend, il est lié au jeu. Kinect, TV et tout, c'était des expériences en parallèle au jeu. Donc là, la génération, elle s'annonce pas de la même manière. Et pourtant, on voit, alors c'est peut-être parce qu'on s'adresse quand même à un public de hardcore gamers et des gens qui sont présents day one sur console next gen, on voit que l'enthousiasme pour les nouvelles machines, il est là, mine de rien.
Très clairement.
D'autant plus qu'on n'a pas montré grand-chose, quoi. Enfin, ils n'ont pas montré grand-chose, ils n'ont pas joué surtout.
Les machines sont épuisées chez tous les détaillants, etc. Enfin, oui, tu sens qu'il y a malgré tout un engouement. Et moi, c'est ça qui m'étonne, c'est qu'il y a très peu de promesses finalement, mais les gens sont là.
Parce que ça fait longtemps qu'on a les PS4 et les Xbox One. Les gens ont envie de passer à autre chose. En fait, ils ont envie de rêver. En fait, ils croient à la promesse.
Ils y croient.
Ouais, parce que leur crédit pour leur iPhone, il est terminé là. Du coup, faut peut-être relancer un autre.
Il y a le 12 qui arrive.
Ah bah oui. Donc du coup, c'est fou.
Ouais, là, dans quelques jours,
va falloir tout cumuler en même temps. Ça va être compliqué en fait.
Coffee Noga.
Ouais.
Coffee 10 et tous ces trucs-là. Ils se frottent les mains. Ouais. Venez vous endetter.
Venez et dormez dans la rue.
Exactement.
Bah mais voilà, de rien, on a hâte de l'essayer maintenant.
Mais parce qu'on veut des jeux. Je veux tenir la DualSense dans mes mains et sentir ce que ça fait.
Moi, le Astrobot,
ton coup, toi.
Astro's Playroom, j'ai super envie d'y jouer. Spider-Man, Miles Morales aussi. C'est les deux trucs vraiment auxquels j'ai envie de jouer sur PS5. Ouais,
J'en attendais rien, et franchement, d'avoir regardé un peu de gameplay et tout, je me dis ok, il y a un platformer 3D qui a l'air assez solide finalement à la sortie. Donc,
Ratchet & Clank aussi avec son système de passage
surtout qu'est-ce qu'il est beau, Ratchet. Ouais.
Après, ça, c'est souvent des.
Ils sont forts.
On sera sur de l'exclu justement. Là, on pourra se dire ok, ça c'est un jeu qui ne tourne que sur PS5, qui exploite véritablement les premières spécificités de la console. Là, on aura l'impression de vraiment mettre le pied dans la next gen. Mais, ouais, mais c'est dans quelques mois.
Et imaginez le plaisir des gens qui aiment les jeux From Software avec Demon's Souls aussi. Enfin, voilà, ça va être pas mal.
Mais c'est du remake.
En 8K.
En 8K. Pas mal. Mais moi, là, je te dis, à titre strictement personnel, Day One, si j'allais dans mon magasin,
jour 1.
Si on pouvait encore faire ça, tu sais, aller dans ton magasin et acheter la console le jour de lancement, Astro's Playroom, il est déjà inclus dedans, donc ça, c'est cool. Mais moi, je me prendrais Miles Morales.
Bah, ça va être le jeu que les gens vont prendre de toute façon.
Bah, quand tu vois comment Spider-Man a cartonné sur PS4, c'est une des plus grosses exclus.
C'est la licence la plus sexy. Enfin, je veux dire, sur le line-up, il y a effectivement Demon's Souls, mais Spider-Man, ça parle
plus grand public, quoi, clairement. Mais ouais, c'est là-dessus que je
et donc,
jetterai mon dévolu.
Et donc, juste un petit mot sur le ventilo, les mises à jour, etc. Alors ça, je sais pas ce que vous en pensez.
Bah, c'est possible, tout est possible, tu sais.
Donc ça veut dire qu'en fait, le ventilo, il va faire un bruit monstrueux à sa sortie et qu'ils vont, faire en sorte de l'améliorer.
Sur PC, tu as souvent tes ventilateurs pour processeur ou même
ça existe déjà sur PC, ça.
Tu as souvent des programmes internes des constructeurs eux-mêmes qui te permettent de décider si tu veux que le ventilateur soit plutôt silencieux. Mais ça, c'est de manière permanente. Hein. S'il soit plutôt silencieux, qu'il soit plutôt actif, qu'il soit plutôt super méga actif.
Oui, mais ça dépend pas des jeux que tu utilises aussi.
Non, ça, c'est des choses comme ça que tu peux décider, mais tu peux aussi choisir qui s'adapte complètement à la situation.
D'accord, c'est ça.
Donc
par moment, il va souffler fort et d'autres,
il va
tourner vite. Pardon.
Pourquoi pas décider qu'à partir de tel degré au niveau du processeur, ça commence à tourner un peu plus, c'est un peu plus vite. Enfin, c'est comme ça sur toutes les machines, en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Donc, ça me fait un peu peur.
Là, c'est du pur firmware du ventilo, quoi.
On nous fait une console super grosse avec beaucoup d'espace
dissiper la chaleur, etc.
Mais là, avec ça, on nous laisse quand même entendre que dans certaines situations, pourrait avoir besoin de tourner plus fort, donc potentiellement de faire du bruit. Et on sait que quand on voit les jeux produits par les studios first party de Sony, les God of War, les Last of Us, etc., des vitrines totales, mais qui nécessitent quand même que le ventilo, enfin que le processeur...
Qui nécessite de jouer au casque.
Donc voilà, et donc je me dis, punaise, si même sur PS5 on en arrive là, c'est inquiétant.
Et on est
quand
même
taille de la console,
hein.
Oui.
Donc on va pas être sur les jeux les plus gourmands tout de suite.
Je pense qu'elle fera pas de bruit. Qu'elle fera pas de bruit tout de suite. Hein, mais
je pense qu'ils vont utiliser 10% de la machine.
Nos consoles, on a l'habitude aussi de les poser avec quelque chose derrière. Et ça, pour freiner la ventilation, il y a rien de mieux. Mmh. Et du coup, la faire chauffer encore plus, il y a rien de mieux aussi. Là, le fait est que la vibration est vers le haut. Et donc du coup,
il y a moins de chance. Donc tu vas pas la glisser a priori dans un truc.
Voilà. Je pense qu'ils ont fait exprès justement pour t'éviter de la mettre dans un meuble. Moi, mes consoles sont dans un meuble fermé. Bon, j'avoue que j'ouvre la porte des meubles quand elles sont en utilisation parce que sinon c'est pas possible. Il fait trop chaud à l'intérieur. Mais la PS5, j'ai vraiment l'impression que personne va la ranger dans un meuble.
Ah bah là, t'es obligé de la mettre à côté d'un pot de fleurs sur une étagère.
Tel que mon meuble télé est fait, il est pas fermé, il est ouvert sur la façade avant. Moi je comptais la mettre à l'horizontale là où ma PS4 Pro est actuellement. Là pour l'instant il y a ma PS4 Pro et mon PSVR posé à côté, donc là, je pense que si je retire le PSVR, oui, ça rentrera, mais moi j'ai pas d'endroit où la poser debout sans rien autour.
D'ailleurs l'un des éléments aussi sur lequel Sony a très 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 peu communiqué, voire pas du tout, c'est la réalité virtuelle sur PS5 pour l'instant.
Oui, c'est vrai.
Ah, mais ça ils l'avaient dit, et ça ils avaient expliqué.
Ça serait
dès le début, et ça remonte peut-être à 2 ans, je ne sais plus.
Oui, ça fait un moment qu'ils en ont parlé.
Ils expliquaient que pour communiquer, c'était assez perturbant pour le public de balancer une nouvelle console et un nouveau casque et de leur dire vous avez besoin d'acheter ça et ça.
Bon, ça fera 1 500 euros, les gars.
Donc ça viendra après, mais il y a des gens qui ont, en fouillant dans les codes du PlayStation Store ou je sais plus quoi, qui ont commencé à avoir des mentions de connexion PSVR sans fil. Donc ça viendrait confirmer.
De toute façon, c'est sûr qu'ils vont s'y mettre.
Ça viendrait confirmer ce que les brevets disent depuis des lustres. Et de toute façon,
et c'est logique.
Si tu veux faire évoluer la VR sur PlayStation dans le bon sens d'un point de vue commercial, il faut qu'il n'y ait plus de câbles.
Il faut qu'il n'y ait plus de câbles.
Il y en a beaucoup trop.
Bah, tout le monde le fait.
Moi, j'adore mon PSVR, mais il y a beaucoup trop de.
C'est trop contraignant. En termes d'installation, de tirage...
Moi, quand on est pas, je regarde un tuto vidéo à chaque fois pour le brancher.
Moi, je l'ai branché une fois, j'ai pu toucher.
Je le débranche plus. Ils avaient mis des petits chiffres sur les... Mais donc, ça fonctionne bien. Hein. L'expérience est top, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de câbles.
Là, s'ils peuvent avoir une techno sans fil, franchement, ça serait super. Quoi. En vous remerciant, bien sûr.
Voilà.
Ben voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Ah si, on va juste dévoiler le sondage qu'on avait lancé sur Gameblog. On vous avait demandé quelle console next-gen allez-vous prendre cette année, pour ceux qui ont répondu. Donc la next-gen pour vous, ce sera 37% PS5, 25% Series X et 10% les deux. Donc 10% de bourgeois.
Et on voit qu'encore une fois, que PlayStation, ils ont beau quasiment rien montrer.
Ouais, mais pour une fois, Microsoft ne sont pas si loin que ça.
Ouais, moi je suis étonné de, de l'écart. Hein,
ça aurait été 80-20 à l'époque. Hein, une époque.
Moi je suis étonné que ça soit pas plus que ouais, ça. En
exactement. Parce qu'il y avait d'autres réponses aussi. Hein, c'est peut-être pour ça aussi. Ouais. Genre
la Switch 4K.
Voilà, prendre les deux évidemment.
Mais prendre les deux, c'est déjà
les réponses bonus, un PC avec une 3080 ou une Switch 4K Pro, parce que j'y crois.
Non, mais comme quoi, fait pas forcément la mais super unanimité à 90%.
De toute façon, si tu regardes les dates de sortie de la console, de la PS5, t'as toutes les infos dont t'as besoin. Le fait que la console sorte en dernier en Europe, ça veut tout dire pour moi. Parce que aux États-Unis, ils savent que c'est là où ils vont rencontrer la concurrence la plus dure avec la Xbox, donc ils le sortent en premier. Ils le sortent au Japon parce que c'est pas un territoire où la PS4 a surcartonné, mais malgré tout ça reste une marque japonaise.
Ils seront hégémoniques sur les consoles de salon next-gen.
Ils veulent pas vexer, le public japonais en sortant
comme
la
avec
console,
la PS4 à l'époque,
en sortant la console plus tard. Ouais. Donc voilà, donc Day One aux États-Unis et au Japon pour ces raisons-là.
Logique.
Et ils sortent en Europe une semaine après parce qu'ils se disent que peu importe ce qu'ils feront et ce qu'ils diront, la PS5 marchera en Europe. Oui. Là, je veux dire,
le marché européen Sony, pour Sony.
Sony, il pourrait te sortir une PS5 avec le packaging, le boss qui fait deux doigts d'honneur en disant j'emmerde les Européens. En gros, les gens se précipiteraient dessus.
Et toi, le premier, je suis sûr.
Ah ben oui, mais moi, je joue, j'ai toujours joué partout. Et
je vous l'avais dit.
J'aurais pas les moyens de me procurer les consoles à cette année, mais si je pouvais, là, si j'avais le budget, j'achèterais les deux Day One, clairement.
Pareil.
Parce que j'aime bien en plus, tard, mais... pour le côté nouvel objet, nouvelle technologie, etc. J'aime bien avoir
dit...
les consoles.
Bon, t'en bouge pas, on va débloquer du budget.
Alors, on va prendre le design, les gars, là, pour toute la rédac.
Okay.
Ceci dit, moi, j'ai rarement pris. Enfin, acheté les consoles tout au début, parce que je sais qu'il y a toujours des petits soucis à chaque fois. J'aime bien attendre les versions un petit peu
d'après. Quand on laisse les gens essuyer les plâtres, quoi.
Des révisions techniques.
Non, c'est ça, en général, les premières machines, ça essuie les plâtres. Donc, bon. On verra.
Ah, mais sur la longueur, c'est certainement celles qui valent le plus cher.
Sauf pour les collectionneurs. Mais ouais, voilà.
Chez les collectionneurs, quand tu regardes les numéros de série, toutes les consoles ne valent pas.
Ouais. Et moi, je ne vais pas entrer dans ce jeu-là, je m'en fous en fait. Du moins qu'elle fonctionne bien et qu'elle ne chauffe pas au bout de deux jours, qu'elle n'explose pas. Parfait, bah voilà, c'était le thème numéro 1, donc sur la PS5, en attendant d'en savoir beaucoup plus, évidemment, dans les jours et semaines qui viennent.
Mmh.
Il reste pas longtemps, non. Un mois de sa sortie, en gros, hein, tout juste, hein, je crois. Hein.
Moins d'un mois maintenant.
Moins d'un mois, du coup. Il reste plus beaucoup de temps, mais bon, dès qu'on aura du biscuit, comme on dit, des choses à se mettre sous la dent, on vous en fera part, évidemment. On va parler du deuxième thème de la semaine, c'est Sega qui a fêté ses 60 piges.
Plus petit thème. Un thème plus modeste.
Oui, plus
un
modeste.
Ils arrêtent pas de balancer des trucs là, pour leurs 60 ans, c'est génial. Et la semaine dernière, ils nous ont vraiment fait une belle surprise.
Sega, 60 ans, voilà, exactement.
Et toutes ses dents.
Et c'était pas la Game Gear Mini. Voilà, c'est ça qui est bien aussi.
Ah, mais il y a une politique qui est totalement différente entre Sega Japon et Sega West pour le traitement de cet anniversaire. Bon, moi, je sais. De sources sûres, qu'à la base, il y avait des événements prévus un peu partout dans le monde, hein, mais des événements physiques pour les 60 ans qui ont été totalement annulés à cause du coronavirus. C'est assez bizarre. Et juste avant de rentrer dans les détails, j'ai noté un truc parce que tu sais, j'ai testé pas mal la rétrocompatibilité sur Xbox Series X et donc j'ai joué à Shenmue. Pour voir comment ça va fonctionner. Et Ryo, quand il va au magasin, aux divers magasins dans le jeu, il peut s'acheter des petits chocolats, des petits caramels, des petits trucs estampillés Shenmue. Et dessus, c'est marqué « Since 1951 ». Et quand tu lances l'intro de Sega Gaga, qui est un des derniers jeux de la Dreamcast, dans l'intro, ils mettent aussi « Since 1951 », qui est une des dates de création potentielle de Sega. Et ce qui est marrant, c'est que ces dernières années, ils ont changé en fait leur date de naissance officielle. Ils sont passés de 1951 à 1960. Donc c'est pour ça que là.
Et pourquoi
je sais pas, peut-être parce que 60 ça sonnait
mieux. C'est plus rond.
C'est plus rond. Et là maintenant, ça leur permettait de fêter l'anniversaire.
Et puis les entreprises au Japon ont différentes formes administratives. Peut-être qu'ils ont pris justement la dernière, celle que Sega utilise encore actuellement.
L'histoire de Sega, de toute façon, et de la genèse est assez compliquée. Il y a plusieurs boîtes qui se sont liées, qui se sont ensuite séparées, qui ont reformé des trucs. Enfin, c'est assez compliqué. En tout cas, c'est marrant de voir que la date officielle qui est retenue désormais n'est pas forcément celle qui était retenue il y a quelques années de ça. Bon, bref. pour parler de l'anniversaire. Donc au Japon, c'est Goodies Land, hein, comme d'habitude. Les Japonais sont très merchandising. Donc on a eu la Game Gear Micro, l'Astro City Mini, plein de t-shirts et de badges et de porte-clés, de CD qui sortiront plus tard pour fêter ça. Chez nous, ça a été beaucoup plus dématérialisé et jusqu'à présent,
en tout cas,
100% PC. Alors on sait que sur les consoles, il y a eu des phases de promotion où tu pouvais acheter des jeux sur les stores, etc. Mais le PC qui est ouais, vraiment
c'est
vrai que
c'est étonnant. Hein,
le PC qui est vraiment un axe porteur pour Sega Europe principalement, c'est eux qui ont eu le droit à tout. Et autrement, je sais que si certains peuvent s'étonner de l'absence de trucs en boîte pour l'Occident, là aussi, on m'a dit que chez Sega Europe, ils veulent vachement mettre l'accent sur le dématérialisé. Ils veulent inciter les gens acheter du jeu des maths, peut-être parce que ça augmente leur marge. Enfin, ça fait certainement partie des raisons.
Bah, t'as pas les coûts de distribution, etc. Donc, oui, ils sont moindres. Hein, donc,
production des boîtes, etc. Pas de passage via des boutiques.
Surtout qu'ils font des boîtes recyclables écologiques maintenant. Donc, forcément, ça leur coûte beaucoup plus cher quand ils passent par ça.
Mais, tu vois, là, Yakuza Like a Dragon qui sort le 10 novembre, t'as une version physique, mais si tu veux avoir tous les bonus in-game proposés à la sortie, c'est vers une version des maths qu'il faut tourner.
Ils essayent de te pousser.
Et on m'a dit que c'était clairement un choix volontaire. Ouais, c'est pas le fruit du hasard.
Ils essayent de te pousser au maximum.
Si les bonus principaux sont sur le des maths, c'est pas pour rien. Et donc, en parallèle à ça, ils ont annoncé officiellement la semaine dernière le début de la campagne d'anniversaire des 60 ans de Sega chez nous. Alors, il y aura plein de trucs. Il y aura des interviews, il y aura des vidéos, des streams spéciaux organisés par Sega, tout ça. Sur le site officiel ouvert à cette occasion, c'est vraiment un gadget. Hein. Tu peux retrouver des jaquettes de jeux, mais anachroniques, on va dire.
Ah oui, j'ai vu ça.
C'est ça qu'ils ont balancé, d'accord.
Yakuza Kiwami 2 sur Sega Saturn.
J'ai vu un tweet passer, c'était vachement bien fait.
des fausses jaquettes, en fait, de leurs jeux aussi bien anciens qu'actuels.
Ouais, ils ont tout mélangé. Quoi.
Ils ont fait des trucs chum à la sauce Master System aussi.
Il y a des jaquettes Master System.
Les plus cultes.
Mais c'est un truc qui m'a fait marrer, c'est genre Yakuza 0 sur Game Gear. Ouais. Bon courage pour essayer de faire un Yakuza 0 sur Game Gear, mais bref, c'est ça la blague.
Oui, oui,
et en parallèle à ça, ils ont fait une opération ultra courte dans le temps sur Steam.
Que j'ai loupé comme un con.
Qui permettait de récupérer gratuitement des mini-jeux qui faisaient des crossovers entre diverses licences Sega.
C'est bien.
Et donc il y en avait 4 pour ne pas les nommer. Armor of Heroes.
Bah quoi, tu les nommes alors?
Bah oui, Endless Zone. C'est comme ça quand on dit pour.
Oui, je sais. Ouais.
Ah bon?
Streets of Kamurocho et Golden Axe. Golden Axe, c'est un cas particulier, mais on reviendra un peu après. Donc par exemple, Endless Zone, c'est un mélange de l'univers Endless et de Fantasy Zone. Et j'y ai joué brièvement. Effectivement, visuellement, c'est de l'univers Endless, mais ça se joue comme un Fantasy Zone, c'est-à-dire un shoot'em up dans lequel tu peux aller aussi bien à gauche qu'à droite, etc. Avec les grosses pièces à récupérer, tous ces trucs-là. Et j'ai surtout joué, bien évidemment, à Streets of Kamurocho.
Forcément.
Qui est un crossover, comme son nom l'indique, entre Streets of Rage et Yakuza. Alors, c'est marrant parce que l'intro et la musique du menu de sélection des personnages sont des musiques de Streets of Rage qui ont été un peu remixées. Et ensuite, en cours de partie, tu as des thèmes de Yakuza façon chiptune un peu. Tu sens que musicalement, c'est peut-être un peu trop sophistiqué pour que ça tourne vraiment sur une...
C'est pas le chiptune de la Mega Drive qui a été utilisé.
Mais ça fait penser à ça. Et au niveau gameplay, c'est clairement inspiré de Streets of Rage 2. En fait, tous les personnages ont le moveset d'Axel, mais le moveset de l'époque. Et donc, tu as 3 personnages, 2 débloqués d'office, Kazuma Kiryu et Goro Majima. Et si tu arrives à terminer le niveau une première fois, tu débloques Ichiban Kasuka, qui est le nouveau héros
du set,
et qui lui-même a une version chiptune d'un des thèmes de combat de Yakuza 7. Ils ont été jusqu'à ce niveau-là. Et en fait, c'est une sorte de survival. L'idée, c'est que tu as un niveau, mais tu le refais à volonté, et ça continue de faire augmenter ton score, et t'as un leaderboard à la fin avec un classement mondial.
On précise pour ceux qui sont en train de regarder que c'est déjà trop tard.
Oui,
les jeux ne sont plus disponibles.
Si vous l'avez pas déjà téléchargé, c'est
loupé.
Fini.
Putain, tout le monde a eu sauf moi, en fait.
Mais c'est chouette, et ça me fait ça faisait longtemps que je me disais que, parce qu'il y a plein de gens qui font des hacks de Streets of Rage qui tournent sur des vrais Mega Drive, dans lesquels ils remplacent les personnages, dans lesquels ils remplacent les musiques, etc. Et je me suis toujours dit, Streets of Rage, c'est une série qui se prêterait assez bien pour faire un Yakuza 2D, tu vois, un beat'em all à l'ancienne. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors je trouve que les modèles des personnages sont pas parfaits, mais en tout cas les environnements sont super chouettes, les musiques aussi, et ça fonctionne bien. Et je me dis qu'il y a un concept à creuser, tu vois. Mais par contre, pourquoi ne proposer ça que sur PC, quoi? Parce que Sega, c'est quand même, même si maintenant ils mettent l'accent sur le PC, c'est quand même une marque qui est très très liée aux consoles, avec une base de fans qui, je pense, est principalement toujours aujourd'hui sur console. Pourquoi ne pas proposer ça ailleurs? Tu vois, Streets of Kamurocho, tu le mets en bonus sur le menu de Yakuza Like a Dragon, ça passe tout seul, tu vois, un petit bonus gratuit, genre un petit clin d'œil, tu vois.
60 ans, c'est l'âge de raison, tu vois, ils tournent une page et maintenant ils entament un nouveau chapitre de leur existence.
Et donc, en plus de ces trois-là, vous aviez Golden Axe, et donc le jeu de mots avec Axe et Axed, parce que quand tu dis en anglais que quelque chose est Axed, c'est qu'il s'est fait sucré, quoi, il a été supprimé, annulé, etc. Et donc, c'était un projet de Golden Axe. Bah, qui a été tout simplement annulé, c'était un pitch qui n'a pas été validé, etc. Et ça a créé une petite polémique, parce qu'un des développeurs de ce Golden Axe avorté l'a plutôt mal pris, parce qu'en fait, dans la description du truc de Sega sur sa page anniversaire, il prenait ça à la rigolade. Et le mec disait, sauf que nous, on a dû bosser là-dessus pendant deux semaines en crunch de ouf. Le truc, il nous a totalement démoralisé. Et vous balancez ça, vous balancez ça comme une blague. Alors, Sega a refait un petit communiqué pour dire que c'était pas du tout leur intention.
Voilà, les gens qui s'offusquent pour rien,
de blesser qui que ce soit. Et donc, ils ont dit, ils ont reformulé le truc sur le site. Mais ce qui est assez, pour la petite histoire, c'était un truc qui a été créé en parallèle au remake de Castle of Illusion, qui était sorti en démat sur PS3,
PS3 360,
etc. Et c'était le studio qui n'existe plus aujourd'hui, de Sega en Australie, qui s'était chargé de Castle of Illusion. Et quand le truc a été pitché, ils leur ont dit essayez de nous faire faites-nous un pitch de Golden Axe dans la même veine, en faisant un truc très violent, très gore, etc., jouable en coop, etc. Et c'est ce que les mecs ont fait. Et ils se sont réveillés un matin, voyant que Sega avait décidé de balancer leur truc comme une blague, comme ça.
Tu l'as essayé, celui-là ?
Non, pas encore. Je l'ai téléchargé. Moi, j'ai téléchargé les 4. Je me suis dit, même si je ne peux pas y jouer tout de suite, au moins, je pourrais y revenir. Mais Sega dit qu'ils ont demandé à certaines personnes impliquées dans le projet à l'époque de fignoler un peu le truc pour pouvoir le balancer au public.
Que ce soit
ça.
Propre. Hein.
Mais le premier développeur qui s'est plaint dit que lui n'a pas du tout été contacté et que tous les autres développeurs de l'époque n'ont pas été contactés non plus. Donc ils se demandent qui a fait ça. Donc ouais, ils ont, en essayant de faire un truc un peu festif, un peu inédit, ils ont quand même réussi à créer une polémique. Même si au fond, je trouve ça très dur pour les gens qui ont morflé sur ce projet-là à l'époque, mais j'aime bien l'idée de nous permettre d'essayer des projets annulés, des trucs comme ça. C'est comme dans la compile Aladdin Roi Lion qu'on a eu l'année dernière, ou cette année, oui, l'année dernière, sur PS4, Xbox One, Switch, etc. Dans les bonus, vous aviez une démo CES, et je trouve ça très chouette qu'on puisse avoir accès aux démos qui étaient présentées sur les salons, des trucs comme ça. Ça fait partie de l'histoire du jeu vidéo.
C'est de la sauvegarde du patrimoine, quelque part.
Ça fait partie de l'histoire de ces jeux-là en particulier, de ces éditeurs, etc. Et je trouve ça cool. Là, le contexte est un petit peu malheureux, mais c'est bien, d'autant plus qu'on le sait que jusqu'à encore récemment, les éditeurs et les développeurs, etc., prenaient pas forcément soin de leur code source et de leurs fichiers, etc. Il y a énormément de choses qui ont été perdues et qui ne seront jamais retrouvées. Là, cette démo-là, Sega y avait encore accès, et je trouve ça bien qu'ils nous permettent d'y jouer à notre tour. Ça a été fait de manière maladroite, mais j'aimerais bien que ce type de démarche se développe par la suite. Et pour revenir, pour accrocher les wagons, j'aurais bien aimé que Sega propose des trucs un peu plus pour les joueurs console, ou que ces démos-là puissent être utilisées, même si Armor of Heroes, par exemple, ça parle uniquement aux joueurs PC. J'aurais bien aimé qu'il y ait des trucs un peu plus pour console, et j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de merchandising comme ça a été fait au Japon. Voilà, parce que moi je suis collectionneur, j'aime bien tous ces petits trucs là. Et d'ailleurs j'ai commandé ma Game Gear Micro qui devrait arriver incessamment sous peu. Mais voilà, j'aime bien moi quand on a le droit à ces petits trucs là et que c'est pas seulement réservé au Japon. Voilà, j'ai tout dit.
Parfait. Écoute, ouais, c'était Un bel anniversaire. Et il va se poursuivre encore cette année avec d'autres choses.
Ça continue. Bah d'ailleurs, là,
jusqu'à la fin des temps.
Je crois que si vous, pendant encore plusieurs dizaines de jours, si vous reliez votre compte Sega à votre compte Steam ou un truc dans ce genre-là, il faut aller sur le site anniversaire de Sega pour avoir les détails. Vous pouvez récupérer la version PC de Knights gratuitement.
Knights, okay. Into et Sonic 2 était offert.
Sonic 2 était offert en même temps que les 4 autres, etc. Il y a des petits trucs comme ça. Knights. Un jeu gratuit à récupérer, c'est toujours bon à prendre. Donc, si vous n'avez jamais joué à Knights ou sur PC,
c'est très sympa d'ailleurs.
Que vous êtes nostalgique du jeu Saturn, bah, allez-y, il est dispo gratuitement.
Et si vous avez tout loupé comme moi, bah, tant pis pour vous. J'aimerais bien qu'ils y remettent sur Steam.
Ils y remettront, mais il faudra payer.
Un jour. Ouais. Oui, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup pour cet anniversaire. 60 ans de Sega, donc fêté dignement qui va continuer à fêter ceci. Sans doute jusqu'à la fin de l'année, avec peut-être encore des surprises, on ne sait pas. Nous verrons. Tout de suite, on passe au jeu de la semaine. Et on commence avec Assassin's Creed Valhalla, Thomas, que tu as pu rejouer, auquel tu as pu rejouer, pardon, pour la 25e fois.
Pour la deuxième.
Deuxième fois, pardon.
Et pour le coup, c'est bien que tu y aies rejoué.
Ouais,
parce que
exactement. Et là, oui, c'est ça. Tu avais un petit peu peur au début de
ah bah, du coup, je vais
en te disant que c'était peut-être encore la même chose, etc.
Je vais aller un peu moins à reculons, ouais.
Voilà, exactement.
C'est vrai qu'on l'avait essayé au mois de juillet. C'était la toute première prise en main à ce moment-là de ce nouvel épisode d'Assassin's Creed. Et ça s'était pas forcément très très bien passé. Il était un peu comme vous, il était assez lourd finalement.
Assez lourdingue.
À l'époque. Et
coupe son micro, Poufi, tout de suite.
Il faut croire que l'été lui a permis de
se refaire une santé.
De gagner un petit peu de légèreté, ouais, parce que c'est. Alors, déjà, juste pour expliquer, là en l'occurrence, on a pu faire un petit bout d'arc scénaristique du début à la fin. Donc on a pu avoir un point de vue un tout petit peu plus élevé justement sur la structure du jeu, sur les quêtes qu'il y avait à faire à côté, là où la première démo était plutôt drivée sur quelques missions, on avait moins de liberté, là on a pu profiter un peu du monde ouvert, ce qui n'était pas le cas la dernière fois, donc déjà ça change le rapport au jeu, et surtout on a pu découvrir qu'il avait gagné en légèreté sur à peu près tous les points, ça veut dire les déplacements, parce que Assassin's Creed, au départ, c'est quand même un jeu d'infiltration, hein, ce qui avait un petit peu disparu dans la toute première démo. Là, on a pu avoir des phases où, justement, il fallait la jouer un petit peu malin, ce que Julio appréciait beaucoup, prendre des forts, rentrer, sauver un otage, se barrer sans faire de bruit. C'est quelque chose qui avait manqué, et pareil, dans les combats, on a quand même moins de lourdeur. Alors, certains vont dire que du coup, l'impact des armes est peut-être un petit peu diminué, certes, mais c'est quand même vachement plus plaisant à jouer, je trouve, que la toute première version, d'autant plus qu'on a moins de décapitations dans tous les sens, de gerbes de sang au moindre soldat vaincu. Voilà, on respire un petit peu, on a l'impression de retrouver quand même des racines de la série. Et puis, alors, il y a des trucs qui marchaient déjà bien à l'époque, parce qu'il y en avait quand même quelques-uns, c'était plutôt la direction artistique, l'environnement. Alors je sais que ça parle pas à tout le monde, mais moi je trouve que l'Angleterre du 9e siècle, c'est quand même assez chouette à parcourir, ça change, ça tranche en fait pas mal avec le côté un peu grandiose, sublime et ensoleillé des épisodes antiques en Égypte et en Grèce. Là on est face à quelque chose d'un petit peu différent, d'un peu plus sale en fait, il y a beaucoup de boue, de cabanes de bois, etc. Et c'est vachement intéressant, et justement l'une des features qu'on a pu découvrir en parlant de cabane, c'est le hub central, puisqu'il va y avoir une petite partie gestion de village, gestion de colonie en fait, puisqu'on est quand même des envahisseurs qui viennent squatter un petit peu les terres anglaises qui ne sont pas encore unifiées. Bah oui, mais on profite de la faiblesse de l'ennemi, hein, c'est exact. Comme ça que ça se passe, c'est l'histoire de l'humanité. Et du coup, la colonie d'Eivor et de sa bande de vikings, elle va devoir prendre de l'ampleur. Donc en fait, quand on commence, il y a quelques bâtiments qui sont déjà un petit peu développés, le sien, le bâtiment religieux évidemment, mais il y a des trucs qu'on va devoir alimenter en fait en matériaux. Par exemple, on peut développer un stand de pêche. Alors, c'est pas un jeu japonais, mais la pêche, tu vois, de l'importance quand même.
Déjà,
et petit détail amusant, c'est que la pêche se fait vraiment comme à l'époque. C'est-à-dire une corde que tu prends à bout de bras, que tu balances, t'as pas encore de canne.
Et au petit bonheur à chance.
Ce genre de truc. Tu peux développer une boulangerie, un maréchal ferrant qui va travailler des armes, etc. Et pour tout ça, il faut
une
aller...
Une unité Covid aussi.
Alors, je crois qu'ils sont embêtés par plein d'autres trucs, mais pas trop ça. Au 9e siècle, ça va encore. Il y a une peste qui finira par tomber sur le coin de la tronche.
Il y avait au moins la peste.
Mais bon, déjà, le côté insulaire, normalement, protège un petit peu. Et tout ça fait que, du coup, tu as une espèce de carotte pour aller chercher des matériaux, parce que les matériaux, c'est les collectibles en fait d'Assassin's Creed Valhalla. On a moins de choses en fait sur la carte qu'avant, enfin au fur et à mesure des épisodes, et surtout depuis le virage RPG, la série essaye de se débarrasser et de s'alléger un petit peu justement des 13 milliards de trucs à récupérer dans chaque zone. Là, l'idée, c'est que sur votre map, vous avez des points, des points jaunes et bleus qui sont autant de points d'intérêt avec des petite mission à faire, une énigme à résoudre, un type lambda à secourir, un indice qui vous donne une direction, ce genre de trucs, qui font que vous allez ramasser des matériaux, matériaux qui vont vous permettre de faire sortir des bâtiments de terre, etc., etc. Donc on a ce côté un petit peu gestion où on revient au bercail et où on se dit, bah tiens, y a une brasserie par exemple, donc tiens, je sortirais bien de brasserie de terre, etc. Et du coup, ça fait venir des habitants au sein de la colonie, ce qui fait qu'on a l'impression de grandir en termes d'influence. Il y a un côté... côté qui matérialise finalement le pouvoir grandissant des Vikings.
Est-ce que tu peux choisir les bâtiments que tu construis? Ou est-ce que t'en es un comme ça, un comme ça, un comme ça?
Ils sont
par exemple, est-ce que tu peux faire un village où t'as que des brasseries, par exemple?
Non, ils sont tous prédéfinis. Il y a
ça,
un nombre.
Ça,
en
cohérent,
fait, si tu veux, tu commences avec des tentes. Tentes qui vont devenir en fait des bâtiments de bois, etc., etc. Donc les emplacements sont déjà réservés. En tout cas, je te dis ça, c'est la démo que j'ai pu essayer. Peut-être que c'était des paramètres qui étaient fixés pour les démos en question. Mais non, tu pourrais pas faire un village de poivrons avec
Poivroland.
Que des brasseurs et quand même un type qui cultive le houblon dans un coin.
Là, chez tous les Vikings qui sont redbourrés tout le temps dans la rue.
Chez Mossisla, que tu connais.
Ah bah t'as des jeux de boissons.
Oui, j'ai
où tu peux,
t'as des débits de boissons aussi.
Où tu dois battre ton adversaire et puis du coup après évidemment ça tangue à mort, etc. c'est rigolo. Mais voilà, ça nous a permis en tout cas de se dire que bah il y avait, alors c'est pas du tout un épisode qui va bouleverser les choses, révolutionner la formule. On est plus, j'ai l'impression, face à une espèce de synthèse en gros de tout ce qui a bien marché dans la série, parce que on retrouve des mécaniques du premier épisode, vous savez, celles sur lesquelles ils avaient vachement mis l'accent au départ dans la com du jeu, qui était celle de se fondre dans la masse, de se poser sur un banc tête baissée avec sa capuche et d'écouter les conversations, ou de rejoindre un groupe de types et de se mêler à la foule, etc. Ça c'est revenu en fait, parce qu'il y a des zones hostile mais pas trop, c'est-à-dire que c'est moins cheaté que d'habitude. Le premier type qui te voit à 10 mètres va pas immédiatement te reconnaître et déclencher l'alerte dans tout le village. Il faut la jouer un peu fine et du coup on retrouve ce côté infiltration qu'on avait assez clairement perdu, en tout cas sur ces mécaniques là. Et d'un autre côté, ils sont aussi un petit peu revenus, on en avait un peu discuté avec Poufy, sur le système de niveau. Sur les deux derniers, on était clairement dans du RPG avec un level, de l'expérience, des quêtes conditionnées ou de l'équipement conditionné au niveau. Tout ça, c'est un petit peu disparu. Justement, maintenant, l'un des seuls niveaux qui reste, c'est celui de la colonie, qui va grimper en fait au fur et à mesure de ta progression et qui, du coup, fait que tu trouves une arme, elle est super cool, et tu peux l'équiper. T'es pas obligé de gagner 10 levels pour avancer. On a du coup plus ces barrières de quêtes qui font que machin, il va pas vouloir te parler avant que t'aies pris 10 niveaux aussi. Donc on a quand même un petit peu plus de fluidité dans la progression, on est moins freiné. Je sais que les lecteurs ne partagent pas forcément ce point de vue, j'ai vu ça dans les commentaires, mais moi je trouve qu'arrivé à un moment donné dans les deux anciens épisodes, il y avait clairement du farming à faire, comme dans tout RPG. Il y a un moment où t'étais bloqué, où tu te dis putain, j'ai quand même fait plein de trucs, j'ai pas le niveau requis pour continuer. Ouais. Donc il faut y retourner, et là a priori ça a disparu, sauf si le niveau de la colonie conditionne des quêtes. Ça on n'a pas encore pu le voir, mais si jamais il se trouve qu'il faut développer suffisamment ta colonie pour pouvoir progresser, ça veut dire qu'il faut aller chercher des matériaux dans tous les coins de la carte, ça va commencer à potentiellement être relou. Mais il y a quand même vraiment plein de choses à faire, et puis il y a des phases aussi maritimes, parce qu'on a des drakkars, mais on a aussi des petites barques avec un équipage qui chante, qui connaît des chants de marins, des trucs assez sympas. Moi j'ai passé un très très bon moment. Là la session durait quand même 6 heures, donc
un
bon gros morceau. Et là où la dernière fois au bout de 4 heures vraiment j'en avais eu ma claque très clairement, je me suis dit ah ouais, ok, c'était cool, très bien, je veux voir où l'aventure nous mène. Parce qu'en plus on touche tout un tas de thématiques. Alors Camille me dirait sûrement qu'il y a des trucs un petit peu anachroniques, parce que il y a le fils du roi qui n'a pas envie de se battre et qui n'a pas envie de tuer son prochain parce que
c'est des vrais barbares,
c'est quand même un être humain. T'as des jeux de pouvoir politique parce que grosso modo le but quand même des Vikings, c'est de faire tomber les seigneurs locaux pour en installer d'autres qui leur sont favorables. Donc tu vas quand même défaire des têtes couronnées, les exiler ou les tuer pour les remplacer par des potes à toi finalement, hein. C'est de la politique. Ça évoque pas mal de trucs, et a priori il y a plein d'autres thématiques qu'on n'a pas encore pu voir et dont on peut pas forcément parler avant la sortie du jeu définitif. Donc il y a plein de bons signes, et je conclurai d'ailleurs par le truc qui m'a le plus plu dans cette deuxième session de preview, c'est le jeu de dés LOLROG, si je dis pas de bêtises, qui est le Gwent en fait
de
de, oui, des dés à jouer. Des,
pas 2 dés.
Ouais, non, pardon, oui, de dés à jouer, de lancer de dés. Vous avez 6 dés, en fait, sur un plateau de jeu face à un adversaire avec des petits des tokens, en fait, des jetons qui vont permettre de déclencher des coups. Et vous avez 3 jetés pour sélectionner des faces. Et bah, y a une petite dimension stratégique où une attaque peut être défendue, etc., etc. Et évidemment, sur la première partie, tu te fais massacrer en règle, puisque tu ne connais pas justement les règles du jeu. Mais au fur et à mesure, je m'y suis un petit peu attardé, j'ai trouvé ça vachement bien. Et du coup, alors ça n'a peut-être pas le côté aussi sexy qu'une partie de Gwent, en attendant, quand tu arrives dans un nouveau camp ou un nouveau bled et que tu vois un type accoudé au bar... Accoudé au jukebox, ouais.
C'est les fameux anachronismes dont je parlais.
Qui t'attend et qui te dit hey, tu veux pas faire une partie avec moi ? Et où tu peux le dépouiller justement d'un token, d'une attaque spéciale. Bah, à chaque fois, je lui dis bah, vas-y, mec, on s'installe, c'est parti. Et puis je vais te défoncer.
Tonton laisse béton et puis c'est fini.
Tonton laisse béton, ouais.
Toi, tu me fous les glands.
Et vraiment, c'est un mini-jeu que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Il y a des mini-jeux un peu osef, comme le jeu de boisson, etc. Qui
là, t'es resté 5 heures
qui
sur le
sert pas
à
grand
en fait.
Chose. Là, non, mais franchement.
Plus de 5 heures sur le jeu.
Non, mais tu rigole, mais j'ai rematé mes rushs justement pour aider Poufy avec les timecodes, etc. Il y a un moment, je me suis dit, ah ouais, j'ai quand même beaucoup joué à l'Horlog. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Je sais pas si ça va durer sur la totalité de la partie, s'il y aura assez d'éléments pour que ça reste. Mais en tout cas, c'était chouette. Donc, bah, d'un coup, on attend quand même un petit peu plus Assassin's Creed Valhalla,
ouais,
même si
surprise,
ça reste a priori vraiment dans la continuité de la série. Et cette année sans, finalement, aura pas forcément servi à bouleverser les codes une fois de plus.
Et tu vas devoir tout recommencer depuis le début.
Ouais, ça c'est possible.
Oui, mais du coup, j'ai déjà pigé des trucs, ouais. je sais ce qu'il va falloir que je privilégie, etc.
Donc, tu feras encore mieux, en fait.
Et comme il n'y a plus l'aspect RPG, justement, tu n'auras plus besoin de passer des heures à farmer.
Mais c'est pas plus mal que ça soit devenu un peu plus, entre guillemets, aventure, etc., quoi. Voilà, l'aspect RPG dans ce genre de jeu, ça me rebute toujours un peu. Donc...
Il y avait des bonnes idées, mais le fait que tu sois capé sur certaines quêtes ou ce genre de trucs, c'était quand même un petit peu relou.
Tout à fait. Parfait. Bah,
donc voilà,
Thomas,
sorti le 10 novembre.
Le 10 novembre, c'est ça.
D'accord. Avec l'arrivée notamment de la Xbox Series X. Et puis du coup, il arrive aussi sur PS5 le 19 novembre chez nous.
Tout à fait.
Et sur toutes les autres plateformes.
Exactement. Ou le 12 pour Plume qui sera toujours
le 12 pour les États-Unis. Pour Plume en direct de Times Square.
Exactement.
Tout seul, au milieu
j'ai hâte de voir ça.
Tu as dit qu'il fait un duplex, il n'y a que
lui. Il n'y a que moi, ouais.
Il n'y a que lui dans la rue. Pendant la pandémie.
Comme le journaliste de France 2 qui était à Wuhan là pendant 3 mois.
C'est la
folie incroyable.
Ah, tu vas devenir une machine à même.
Merci beaucoup pour ce Assassin's Creed Valhalla donc, qui sort le
10 novembre.
10 novembre, c'est ça, exactement. Et on va parler maintenant de l'autre jeu de la semaine qui est Scourgebringer.
Scourgebringer.
C'est toujours avec toi, Thomas, n'est-ce pas ?
Oui, je
voilà, garde... ça n'a rien à voir. Hein, c'est pas
je suis désolé, je garde le micro.
C'est pas un triple A ?
Non, c'est un jeu qu'on avait déjà essayé en Early Access au mois de février.
Et écoute, je m'en souviens pas du tout.
Et qui m'avait plutôt bien plu.
Si, je m'en souviens en fait.
C'est vrai, ça t'est revenu là.
Oui, je t'avais vu jouer, je m'en souviens.
C'est vrai ?
Ouais.
Tu me regardes tout le temps quand je joue d'ailleurs.
Bah, exactement. Je suis derrière toi comme
et
un corbac.
Tu as parasité ma partie.
Ah, comme un corbac.
Et c'est un roguelite. Pour ne pas trop changer, mais un roguelite assez sympa. Alors je sais pas si je suis pas sûr qu'il atteigne le niveau d'Hades quand même, auquel je n'ai pas encore joué malheureusement.
Hades,
pas eu le temps.
Mais va te falloir du temps, ouais, pour Hades.
Ouais, faut 70 heures, c'est ça, pour finir.
Mais un roguelite qui mélange pas mal de choses. Alors la communication du titre reste ancrée dans cette citation, je crois, de Eurogamer qui dit Dead Cells rencontre Céleste. C'est un petit peu réducteur et quand même. Pas tout à fait exact parce que c'est surtout du roguelite plus que du platformer. C'est un jeu dans lequel on incarne une héroïne qui doit aller combattre une entité qui s'appelle le monolithe et qui fait beaucoup de dégâts sur la planète sur laquelle elle vit. Et bah, c'est un jeu vraiment d'action, en fait, jeu 2D avec un rythme assez effréné où en fait on a une variété d'attaques qui permet de faire face à toutes les situations. On traverse des salles qui sont toutes générées aléatoirement. C'est vraiment, on est dans les mécaniques pures du roguelite, avec deux vagues d'ennemis à défaire à chaque fois, réparties dans 5 mondes différents. Donc évidemment, à chaque fois que vous mourrez, vous recommencez au début, vous repartez sur un run avec des dispositions et des ennemis différentes. Donc vous pouvez avoir un coup d'épée classique, un dash, un coup circulaire qui permet de renvoyer les projectiles ennemis, parce qu'il y a une petite dimension aussi des fois shoot them up avec des projectiles qui vous arrivent dessus, et un tir à distance avec des armes différentes qu'on va pouvoir acheter aux différents marchands du jeu, comme dans un Spelunky ou ce genre de choses. Et bah, tout ça mis ensemble fait que la sauce prend bien. C'est un cocktail plutôt sympa, assez dur. Il y a un espèce de pic de difficulté à partir du troisième monde qui est quand même assez vénère et qui va en rebuter quelques-uns, mais comme ben, les roguelites qui sont quand même un peu plus digestes que les purs roguelikes pour le coup, à chaque fois qu'on meurt on recommence, mais on a un arbre de compétences qu'on va pouvoir aller débloquer avec justement les items qu'on a récupérés sur les boss ou les mid-boss, parce que le principe c'est que dans un monde vous avez un mid-boss qui ouvre la voie au boss, qui vous permet d'aller au monde d'après, on prend les mêmes et on recommence. Et du coup, bah, quand on meurt, on a des items à dépenser, et donc on va pouvoir améliorer son personnage. Ça va des trucs tout bêtes comme un point de vie supplémentaire, à des tirs ennemis ralentis si on arrête de bouger, à des capacités qu'on a débloquées dans son run précédent qu'on va pouvoir des fois conserver au run d'après si on en accumulait assez. Bref, il y a plein de trucs qui vont enrichir le personnage et vous donner du coup de plus en plus de chances de faire un bon run sur la partie d'après. Après, ça reste un roguelite. Il y a des runs qui vont merveilleusement bien se passer, où on va progresser, où on va accumuler énormément d'expérience, et il y en a d'autres, on va tout foirer dès le début, où ça va être absolument catastrophique, mais on peut recommencer systématiquement. Tout ça avec un petit scénario en fond, mais qui prend vraiment assez peu de place. Je vous avoue que je ne me suis pas beaucoup attardé dessus, parce qu'il ne m'a pas passionné plus que ça. Mais l'esthétique est quand même super chouette, et surtout, bah, c'est un jeu qui t'oblige à faire attention, parce que chaque ennemi a plusieurs patterns d'attaque. Tu peux tous les esquiver, tu peux vraiment vider toutes les salles sans te faire toucher, mais ça devient de plus en plus dur. Dès que tu arrives dans un nouveau monde, nouveaux ennemis, nouveaux patterns, des fois nouvelles mécaniques, d'un coup les murs vont devenir transparents, c'est-à-dire que les projectiles les traversent, donc tu peux plus t'abriter derrière les murs pour éviter les lasers qui font tout l'écran, ce genre de trucs. Donc il faut constamment s'adapter. Tu meurs, mais tu recommences et tu deviens un petit peu plus fort à chaque fois. Et tu progresses, et du coup c'est très très plaisant parce que l'esthétique est vraiment sympa. Le gros point noir pour moi c'est avant tout la musique en fait du jeu, parce que les thèmes sont plutôt sympas, mais dès qu'on rentre dans un combat et chaque salle propose deux combats qu'on enchaîne systématiquement, on est sur du rock un peu vénère. Pourtant c'est toute ma vie, mais la guitare rythmique tout le temps à chaque combat, sachant que t'as des combats dans quasiment toutes les salles, c'est vite usant en fait. Ouais. Et moi du coup j'écoute autre chose, j'écoute des podcasts pendant que je joue, des débats, enfin ce genre de trucs, parce que ça m'a un peu vite gavé quand même la musique. C'est dommage que ça soit monothématique en termes d'affrontement. Ça bon, et le fait que bah, des fois le jeu soit évidemment profondément injuste, parce que
comme toujours.
Parce que voilà, c'est le côté aléatoire, c'est le principe, de l'aléatoire, ouais. Justement. Mais en tout cas, si vous cherchez un jeu vraiment nerveux, avec une vraie courbe de progression et surtout un peu de challenge, parce qu'il y a des options d'accessibilité, tu peux vraiment te cheater si tu as envie, mais si tu veux le faire de manière légitime, il y a un challenge quand même assez corsé dans Scourgebringer, qui sort aujourd'hui, le jour où est diffusé le podcast donc le 21 octobre. Et
le test arrive 2 minutes.
J'ai passé un très bon moment. Pour moi, c'est un très bon jeu qui bouleverse clairement pas la donne, hein. C'est un roguelite qui s'inscrit vraiment dans le sillon que tous les autres ont tracé un petit peu avant lui. Il n'y a pas de mécanique révolutionnaire, mais il y a des emprunts à tout un tas de choses, de genres, de mécaniques qui font que ça marche bien. C'est peut-être pas révolutionnaire, mais en tout cas on passe un bon moment dessus. Pour ceux qui ont aimé pour le coup Dead Cells, c'est un bon roguelite pour trouver justement autre chose, avec un côté assez nerveux, péchu visuellement. Bref, si vous aimez le genre, c'est un jeu sur lequel il va falloir s'attarder un petit peu.
D'accord, parfait. Et tu nous as pas dit sur quoi ça tournait?
PC, Switch au moins pour la sortie. Pour le reste, je suis pas tout à fait sûr, il faudra regarder.
Bon, au moins PC Switch alors.
Parfait. Au moins PC Switch.
Et ça vient donc de sortir.
Et ça sort aujourd'hui, au jour où on diffuse le podcast.
Bringer, donc. Ouais. Parfait.
Un jeu avec des concombres dedans.
Exactement. D'où le nom. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous. Ainsi se termine ce podcast.
Ainsi soit-il.
Numéro 540. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, donc. C'est quoi? Oui, parce que j'étais pas sûr, mais du coup.
Non, c'est
rendez-vous, ouais.
Ah,
moitié route.
On n'a pas l'habitude de l'entendre avec une voix aussi posée, tu vois.
On se donne rendez-vous.
Voilà, c'est ça.
C'est mieux, ça passe.
Maintenant, vous l'avez.
Ça roule. Et puis merci à Sonic aussi d'avoir été parmi nous durant ce podcast.
C'est vrai, assez silencieux, mais très
présent.
C'est
vrai qu'on l'a pas trop entendu.
Surtout qu'on nous dit toujours Sonic va vous parler ou Sonic va vous causer. Là.
Sonic, explique-nous la contraception.
C'est pour ce truc, il n'y avait pas encore la voix de Malik Bentala, je crois, qui était intégrée.
C'est vrai.
Tu sais que Sonic, à cause du Covid, ça va être le film de super-héros qui aura fait le plus gros score box office cette année en 2020.
C'est vraiment une année bizarre.
Parce que c'est le seul à être sorti. Donc
Qui l'eût cru, n'est-ce pas?
Pas eux en tout cas.
Exactement. Bah écoutez, voilà, ce sera le mot de la fin.
Merci à Bouffi. évidemment.
Merci à Pouffer la technique.
Avec son masque chat.
Qui va pas prendre de pause ce midi puisqu'il enchaîne.
Exactement, n'oubliez pas la quotidienne chaque jour de la semaine à 18h30 avec Alix et Thomas.
Surtout avec Alix.
Et surtout avec Alix les trois quarts du temps.
Avec Alix et le Joker.
sa doublure quotidienne, ouais. Exactement.
Parce qu'on a essayé de prendre les deux qui se ressemblaient le plus.
Exactement. On a pris le Cantilien et l'Hermontois. Ouais. L'Hermontois.
Ton voisin.
Exactement, que je n'ai pas vu depuis 1000 ans, mais c'est pas grave.
Si, tu le vois ici.
Si, je le vois ici, ouais, c'est déjà bien. Et sinon, sur un rond-point avec sa voiture.
Exact.
Un gilet jaune.
Exactement. Eh bien, merci à tous. Hein. Je crois que voilà,
encore une fois, merci à toi.
À lundi, comme on dit.
Et on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine.
On se donne rendez-vous
une fois de plus pour le prochain podcast de la rédaction de Gameblog. Et d'ici là, écoutez, jouez bien, portez-vous bien et mettez vos masques. Ciao, ciao.
Ciao. Bisous.